Gustave Courbet par Feng Brentano. Gustave Courbet naquit à Ornans, dans le Doubs, le 10 juin 1819. Ses parents étaient des paysans connus. Il reçut une bonne éducation rustique. Mais l'influence qui se fit le plus vivement sentir sur son enfance et sur sa première jeunesse fut l'influence même du sol de France qui lui donna sa sève, son bon génie et sa vitalité. Ses parents n'étaient d'ailleurs pas des cultivateurs de formes communes. Le père, bel homme, beau parleur, était ce que les comtois nomment un cudo, ce qui veut dire un rêveur, un décrocheur d'étoiles. Il avait inventé une herse fantastique qui remuait si bien les semailles qu'elle les détruisait, et par surcroît, une voiture à 5 roues. La mère était la tête de la maison, dirigeant l'exploitation et l'éducation de ses 5 enfants. Le soir, après le dur labeur de la journée, elle se distrayait à jouer de la flûte. Le jeune Courbet fit ses premières études artistiques à Besançon, sous la direction d'un maître local nommé Flajoula, un de ces bons peintres provinciaux, comme le vieux temps en un temps connu, comme le Dijonnais de Vosges qui forma Rue des Prudhons. À Besançon, le jeune apprenti peintre s'était installé dans la maison même où, quelques 40 ans plus tôt, était né Victor Hugo. Mais plus encore que des leçons de l'atelier, il s'inspirait des leçons qu'il tirait de la nature, de la belle et riche nature franc-comtoise, qu'un autre franc-comtois, Charles Naudier, appelait la préface de la Suisse. C'était surtout le cours de la Loue et ses rives verdoyantes, ses ombrages, le puits noir, qu'il illustrerait plus tard de chefs-d'œuvre qui n'ont pas été surpassés. Il se liait familièrement avec les bonnes gens du pays. Comme un forgeron lui demandait de lui orner sa devanture, Courbet lui peignit au-dessus du linteau de la porte les instruments du métier, l'enclume et les marteaux, avec cette enseigne sonore au maréchal de France. Sur ses 23 ans, notre jeune peintre vint à Paris. Indépendant, sûr de lui, fréquentant les ateliers en renom, mais impatient de toute contrainte, de tout enseignement officiel, tirant son éducation artistique de lui-même et la pratique de ceux des anciens qui lui chantaient, les Espagnols, Ribera, Velázquez, et les grands Hollandais, Frans Hals, Rembrandt. Dès cette époque éclate son orgueil sans mesure. « Je suis l'homme le plus orgueilleux de France », dirait-il plus tard en toute simplicité et candeur. Il se regardait, se contemplait lui-même, et le spectacle lui en paraissait d'une beauté accomplie. L'âme de Narcisse revit en lui, disaient les critiques, ses contemporains. Au fait, il était beau gars, grand, élancé, large des épaules, avec de grands yeux pleins de flammes, de longs cheveux noirs, une barbe fine aux reflets soyeux, et son profil. En a-t-il assez parlé de son profil, l'Assyrien ? Les revenus dont il disposait étaient des plus modestes. Il payait sa chambre d'hôtel 20 francs par mois. Pour y parvenir, il y avait 104 marches à gravir. Les 2 fenêtres qu'il ajourait, pratiquées dans la toiture, étaient parfaitement horizontales en sorte que quand il avait neigé, on y voyait plus clair. Le jeune artiste devait monter sur le toit et faire fondre la neige avec des seaux d'eau chaude. Le précédent locataire avait abandonné dans la pièce une bouteille d'encre bleue. Aussi toutes les lettres que Courbet écrit à cette époque sont-elles à l'encre bleue. Après plusieurs échecs, un de ses tableaux est enfin admis au salon, en 1844. Le tableau le représentait lui-même, Courbet au chien noir. Courbet a passé sa vie d'artiste à se peindre et repeindre lui-même. L'homme blessé, l'homme à la pipe, l'homme à la ceinture de cuir, les amants à la campagne, l'amoureux, c'est Courbet, l'homme au bonnet de coton, l'homme au col rayé, le peintre dans son atelier, la rencontre, toujours, toujours Courbet. De tous les peintres du monde, Courbet est, après Rembrandt, celui qui offrit le plus souvent son image au public. 2 années se passent, 2 années de travail et de privation très dures. Le jeune artiste n'a pas le sou. Il doit 2 termes de loyer. Son père, à Ornans, tout occupé de ses mirifiques inventions, la herse, le carrosse à 5 roues et d'autres, n'a pas le temps de songer à son fils. Pour faire l'économie d'un complet, celui-ci va se faire habiller en garde nationale. « Ce serait superbe comme cela », écrit-il, et ces mots ne sont pas rien d'ironie. À cette époque où les uns, à la suite de M. Ingres, étaient tout aux traditions classiques, Raphaël et Poussin, et les autres, à la suite de Delacroix, acquis aux fantaisies du romantisme, le réalisme de Courbet avait peine à se faire accepter. « Vous voulez que je peigne des anges » disait-il, « montrez-moi-en. » Restait la peinture de portraits. Mais les dames qui posaient devant le chevalet de l'artiste voulaient être toutes blanches, des anges célestes. Les hommes voulaient être endimanchés. Allez donc faire de la peinture dans ces conditions-là. Il vaudrait mieux tourner une roue. Courbet se lia avec Alexandre Chasne, le peintre devenu célèbre, non par son talent, mais parce qu'il fut le modèle qui posa dans la pensée de Murger, campant, en la vie de Bohème, son immortel Schaunard. Chasne, dit Schaunard, a laissé des souvenirs. Il y parle de Courbet, qui fréquentait avec lui l'atelier d'un nommé Després, généralement dit le père Lapin. Bureaucrate de carrière, le père Lapin se transformait le soir en un chef d'atelier de rapin. On y trouvait le modèle vivant, moyennant un abonnement mensuel de 6 francs. Courbet arrivait avec des châssis 3 ou 4 fois plus grands que ceux où était tendue l'étoile de ses camarades. Il devait se mettre au dernier rang pour ne pas encombrer la vue de ceux qui peignaient avec lui. Il se servait des couleurs les plus communes qu'il apportait en d'énormes vessies. On eût dit de la peinture de peintre en bâtiment. Et il se servait de brosse, de son couteau à palette, de ses doigts, de chiffon. Tout lui était bon pour mettre de la couleur sur la toile. Était-ce pour rivaliser avec M. Ingres, chef de l'école classique, qui était très fier de son talent sur le violon, avec quelques raisons, paraît-il? Courbet mêlait la musique à la peinture. Son violon d'Ingres était le chant. Il chantait d'ailleurs fort bien, et d'une belle voix. Mais il ne se contentait pas de faire entendre mélodies populaires et compositions des maîtres. Il composait des chansons lui-même, paroles et musique. Nous ne pouvons plus juger de la musique. Pour les paroles, voici un couplet qui donnera une idée du reste. L'inspiration n'en est peut-être pas des plus parnassiennes, ni les rimes milliardaires, du moins le ton en est-il bon garçon. Quand je fume ma pipe chez la mère Évrard, Adèle Gentil m'apporte ma bière, tralala. Qu'on m'apporte à boire, et puis là je bois, avec un vieil ami, je fume ma pipe, tralala. Cet amour de la bière sera la plus grande passion de sa vie, après toutefois l'amour de son art. Appelé plus tard à Munich par une exposition de ses œuvres, il y prendra part à un tournoi de bière. C'était à qui en boirait le plus et le plus longtemps. Après une lutte épique et qui dura 4 jours, Courbet seul restait debout, buvant toujours. Il fut proclamé vainqueur après avoir mis hors de combat tous ses rivaux, prussiens, hessois, wurtembergeois et bavarois. Passion qui lui deviendra fatale et hâtera sa fin. Nous ne suivrons pas l'artiste en son active et tumultueuse carrière. Conspué par les uns, exalté par les autres, il se fraya son chemin par un travail obstiné, par son énergie et par son merveilleux talent. De grands poètes comme Baudelaire, des philosophes comme Proudhon, des critiques éminents comme Champfleury, répondaient à ses adversaires. Enfin, à l'étranger, en Belgique notamment et en Allemagne, son œuvre fut portée au nu, cependant qu'en France, le goût bourgeois, qui fait les succès rémunérateurs, continuait de résister. Francis Vey regardait l'artiste peindre en son atelier. Avec un don si rare et si merveilleux, comment n'es-tu pas déjà célèbre? Personne n'a jamais peint de cette façon. Et Courbet, avec son admirable vanité, et dit François Vey, avec un accent franc-comtois très champêtre, Pardier, moi je peins comme le bon Dieu. Ce même Francis Vey marque, en exemple bien curieux, le réalisme de l'artiste. Au printemps, à Louveciennes, à l'orée du bois. Une même table réunissait Courbet, Gigoux et Corot. Quel tablé! Après le repas, les deux paysagistes, Corot et Courbet, voulurent peindre un paysage. Vey montre le père Corot cherchant avec soin l'emplacement d'où le coup d'œil conviendrait à son goût. Il allait de ci, de là, comparant, hésitant. Courbet s'installa bonnement au premier endroit où son chevalet se trouva dressé. « Où que je me mette, cela m'est égal. C'est toujours bon, pourvu que j'ai la nature sous les yeux. » Le second trait est encore plus intéressant. Courbet peignait sur la côte de Mareille. Vey était auprès de lui. Le peintre venait de modeler sur sa toile on ne savait quelle masse grisâtre. « Regarde donc là-bas ce que je viens de faire, » dit-il à son compagnon. « Qu'est-ce? Je n'en sais vraiment rien. » Mais la distance, où flottait une brume légère, était trop grande. « Je ne puis distinguer ce que c'est. » Puis jetant les yeux sur le tableau même que peignait Courbet, Francis Vey s'écria « Mais c'est un tas de fagots !» Et Courbet, se levant, s'écartant d'un pas et regardant son tableau à la distance requise, « Ma foi, oui, c'est un tas de fagots, je ne m'en doutais pas. » Chasne et Schaunard, d'un côté, Champfleury de l'autre, ont laissé de jolies descriptions de la vie menée par Courbet et le groupe d'artistes, de poètes, de rêveurs et de réformateurs de la société qui s'épanouissait en une vivacité de sentiments et une absence d'ambition pécuniaire qui font de ce temps, prolongement de l'adorable époque romantique, une période si plaisante, séduisante, en la lamentable histoire humaine. On se retrouvait à la Haute-Lorcala, rue Hautefeuille, que le percement du boulevard Saint-Michel a fait disparaître. Cabaret de village, des murs blanchis à la chaux, un sol pavé, des tables et des bancs en bois fruste. Mais au plafond, à des crochets de fer, pendaient agréablement des jambons au parfum séducteur, des chapelets de saucisses et d'énormes meules de fromage à l'écorce grise ou jaune safran. La patronne, que l'on ne connaissait que sous le nom Mère Grégoire, grave et volumineuse, s'installait confortablement à son comptoir, où les plis et replis soigneusement modelés de son gras visage apparaissaient entre un pot de géranium rouge et le tronc en métal blanc pour les pourboires aux garçons. La Mère Grégoire avait des principes et faisait la moue aux petites amies de ces messieurs. À la belle saison, on se rendait en bande au bois de Marne, où fleurissaient, écrit Delvaux, les noisettes et les gibelottes de la mère Pian, ou bien au bois de Fleury, où poussaient les muguets et les côtelettes du père Bazin, à l'étang du Plessis-Piquet, où nageaient les ajoncs et les canards du père Sens. Ce dernier petit coin était de prédilection. Une maisonnette couverte de chaume, poursuit Delvaux. On donnait une poignée de main au père Sens, une poigne de patte à son chien, quelques-uns embrassaient la mère Sens, et tout en causant, on allait choisir le lapin que l'on destinait aux honneurs de la casserole. La société comprenait Courbet et Bonvin, Banville et Baudelaire, Murger et Champfleury, d'autres de même étoffe. Courbet fut-il toujours resté sous pareille influence, mais il tomba sous celle de Proudhon, le philosophe réformateur, sociologue, qui l'empoisonna d'une philosophie et d'une sociologie auxquelles le cerveau du peintre était le moins adapté du monde. Et voilà notre Courbet qui se met à vouloir réformer le monde par la peinture. Il fallait de ce jour l'entendre raisonner, ou plutôt déraisonner, sur ses tableaux sociologues, les casseurs de pierre, les demoiselles de village, les demoiselles des bords de la Seine, le retour de la conférence. On aura un aperçu de ses conceptions sociales par ses déclarations à Champfleury. Pour moi, un homme marié est un réactionnaire. De la sociologie, il glissa la politique, d'où son obstination têtue au gouvernement impérial, ses scènes inénarrables entre lui et M. de Nienwerkerk, directeur des Beaux-Arts, son refus du ruban de la Légion d'honneur. Ce dernier geste, qualifié d'héroïque, lui valut plus de 300 lettres de félicitations. Les artistes lui offrirent un banquet de 100 convives, M. Thiers en personne, et jusqu'à des princesses, ici notre homme se rengorge, n'hésite pas à lui en faire leurs compliments. « Je suis le premier homme de France, » écrit-il, très convaincu. « Le long des rues, je dois tenir mon chapeau à la main comme les curés. » Crier fort et marcher droit, est sa devise. La vue d'un livre le mettait en colère. Des journaux, il ne lisait, et avec quel détachement, que les articles où il était question de lui. À la préfecture de police, Pietri a noté son dossier. Tapageur, mais peu à craindre. Et voici 1870, la guerre, la commune. À Paris, Courbet s'engage dans le mouvement insurrectionnel. Il est élu membre de la Commune. Le 14 septembre 1870, il a la malencontreuse idée, en qualité de président de la Commission des artistes, d'adresser une pétition au gouvernement de la Défense nationale pour réclamer le déboulonnement de la colonne Vendôme, monument dénué de toute valeur artistique, disait le peintre, et tendant à perpétuer les idées de guerre et de conquête. En avril 1870, Courbet est nommé par la Commune son délégué aux Beaux-Arts. En cette qualité, il rendit du moins de grands services pour la conservation des œuvres d'art à Paris. La grosse vanité de l'artiste pouvait alors s'étaler dans toute son ampleur. C'est une extase. Il en écrit chez lui le 30 avril 1871. « Je préside 12 heures par jour. Je commence à avoir la tête comme une pomme cuite. Malgré tout, Paris est un vrai paradis. Point de police, point de sottise. Ça va comme sur des roulettes. Il faudrait pouvoir toujours demeurer comme ça. Un vrai ravissement. Mais on ne peut pas toujours demeurer comme ça. Les Versaillais triomphants, Courbet est arrêté comme communard, mené à Versailles en voiture cellulaire, emprisonné le 7 juin 1871, tandis que son atelier d'ornant était pillé par les Prussiens. Par jugement du 2 septembre 1871, le peintre était déclaré coupable de s'être rendu complice, par abus d'autorité, de la destruction de la colonne Vendôme. Mis en liberté, il se réfugia en Suisse. Les réclamations du Trésor pour les frais occasionnés par le rétablissement de la colonne devait empoisonner ces dernières années. L'affaire traîna avec des alternatives diverses. Les biens de Courbet demeuraient en France, ses tableaux furent saisis. Enfin, la première chambre du tribunal civil de la Seine le condamnait, le 24 mai 1877, à verser à l'État 323 091 francs 66, dont, par faveur, on lui permettait de s'acquitter par versement annuel de 10 000 francs. C'était pour Courbet l'exil définitif. Le malheureux artiste alla s'installer à la tour de Pelle, près de Vevey, au bord du lac de Genève, où il acheta une petite maison. Et voilà la maladie, une hydropisie menaçante, conséquence de la bière bue trop abondamment. Par ponction, on lui retira jusqu'à 20 litres d'eau. En son salon, Courbet fit placer son lit de fer près de la fenêtre, afin d'avoir toujours les eaux du lac sous les yeux. « Si je pouvais seulement y nager 5 minutes, murmura-t-il, je serais guéri. » La vente à l'hôtel Drouot par la direction des domaines, de ses objets mobiliers et de ceux de ses tableaux qui avaient été saisis, ne produisit que des sommes dérisoires. À peine les frais en furent-ils couverts. Parmi ces tristesses, le pauvre grand artiste s'éteignit le 31 décembre 1877 en exil, dans l'angoisse, la veille du 1er janvier 1878, où il aurait dû verser la première tranche, 5 000 francs, qu'il était tenu de faire parvenir au trésor de Foilan. Henri Rochefort était accouru. Il voulut prendre la parole sur la tombe, mais les sanglots l'étouffèrent. Il ne put achever de prononcer l'hommage qu'il voulait rendre à l'artiste défunt. Les artistes sont pour la plupart de grands enfants. Nous leur devons de l'indulgence, plus que cela. Nous leur devons de la reconnaissance, pour la joie qu'ils nous donnent en répandant sur nous la beauté. En poursuivant Courbet comme on l'a fait, on était peut-être dans le droit. Était-on dans la justice, dans le bien et dans la vérité ? C'était Gustave Courbet par Funk Brentano.